Je suis un peu étonnée, je dois reconnaître, au niveau du mode d'expression et du contenu de votre intervention. Je me permets, j'avais l'impression qu'il y avait comme une présentation en opposition, alors qu'en fait nous sommes ici à un moment réussite éducative et partenariat, et j'ai pas senti en fait ce côté partenariat à développer.
Juste une petite réponse.
Je suis
assez étonné de votre remarque. Alors, c'est que je me suis sans doute mal exprimé. J'ai essayé de présenter, me semble-t-il, les remarques que j'entends dans le cadre de l'animation socio-éducative, des difficultés qui sont rencontrées. Je ne sais pas si vous faites, si ce que vous évoquez, c'est par rapport aux enseignants. C'est par rapport aux enseignants. Alors, non, mais parce que du coup, c'est quoi les autres partenaires avec lesquels ce serait. J'aurais montré du conflit. Non, parce que la CAF, j'ai évoqué en disant qu'hier, on avait organisé ensemble des rencontres, justement, qui visaient au. Non, mais alors, en tout cas, pour la CAF, c'est justement, on travaille particulièrement bien avec la CAF et la DDCS, et on a justement organisé ces rencontres, dont il y en avait une hier, qui vise justement à la rencontre entre animateurs et enseignants. Alors, je vais juste faire la remarque parce que, voilà, on a eu 160 personnes sur 4 rencontres et on a dû avoir 10 enseignants. Et les rencontres, on les avait fait les mercredis après-midi et le vendredi après-midi pour permettre, en lien avec l'éducation nationale, hein, pour permettre la venue des enseignants. Alors, je jette pas la pierre aux enseignants parce que c'est un temps libre. Hein, sauf que là, ce qui m'a gêné, si vous voulez, c'est que, moi je connais beaucoup d'enseignants qui m'ont dit mais on n'est même pas au courant, donc voilà, c'est l'incitation, c'est l'engagement de l'institution par rapport à ça. Mais la CAF, non, c'est un partenaire avec lequel on travaille très bien, au contraire.
Alors moi, je voudrais revenir sur ce partenariat dans le cadre du REP+. Dans le premier degré, les enseignants vont avoir 18 demi-journées allouées. Dans le département des Bouches-du-Rhône, on a choisi de faire 3 jours, 3 jours et 3 jours. Je vais parler des 3 derniers pour la concertation et le partenariat. Donc, en ce moment, du temps va être alloué à tous les PE, les professeurs des écoles, pour qu'ils puissent rencontrer les partenaires, donc pendant des temps de classe, n'est-ce pas ? La classe sera prise en charge par des brigades REP+, des remplaçants. Voilà. Et ce matin, monsieur le principal, je crois, parlait de la difficulté qui va être de former, enfin, la formation dans le cadre du REP+. Et nous, en tant que REP+ préfigurateur à Marseille, on voit la difficulté du temps de pondération, du 1.1 dans le second degré face aux 18 demi-journées du premier degré. Ça, c'était la parenthèse pour revenir sur ce que vous avez dit ce matin. En revanche, pour le partenariat, moi, je pense que tout est fait justement pour faciliter les choses et pour que les enseignants ne puissent plus prendre, sur leur temps libre. Voilà.
J'évoquais ça parce que, moi j'entends souvent effectivement que la collaboration, le partenariat existe par exemple dans le cadre de l'écriture des PEDT, et c'est relativement vrai, mais ça touche forcément que des représentants. Donc ce que j'évoque, c'est surtout école par école, c'est-à-dire de dire effectivement comment c'est possible. Moi, j'ai suivi pendant 3 ans l'expérimentation de l'école Gilbert Dru, qui avait sur Lyon mené avant la réforme des rythmes le travail sur, étaler le travail sur 9 demi-journées avec une pause méridienne allongée. Et du coup, c'était une expérience très intéressante, très productive, mais il y avait des vrais temps de concertation qui avait été imaginé justement entre les enseignants et les animateurs. Et sur ces temps de pause méridienne quand la réforme est arrivée, moi j'ai quand même souvent entendu dire ouais, la pause méridienne allongée, ça c'est catastrophique. C'est catastrophique si ce qui est fait pendant la pause méridienne, si les gamins sont mis dans la cour jusqu'à 2h30, c'est catastrophique. Là, dans ce cadre-là, on avait vraiment des choses extrêmement pensées et en collaboration avec les enseignants. Et ça, pour moi, ça donnait des résultats très bien, mais il y avait ce temps pensé. Et ce que j'ai pas vu beaucoup pour le moment, en tout cas dans le département, c'est au-delà de la possibilité pour les directeurs, au-delà de la possibilité, dans le cadre, je vous dis, de l'élaboration du PEDT, des temps avec les animateurs de terrain. C'est ça qui me semblait important, qui est les enseignants et les animateurs de terrain qui puissent se rencontrer à des moments donnés. Mais peut-être, et tant mieux si ça peut exister ailleurs, s'il y a des temps libérés. Mais par exemple, quand on a fait ces journées, demi-journées dont je vous parlais hier, le représentant de l'Éducation nationale nous a dit c'est pas possible de le faire sur des temps de formation des enseignants. Il faut absolument le faire un mercredi après-midi ou un vendredi après-midi.
Peut-être, comme tout le monde n'est pas Éducation nationale, je fais juste une petite explication sur ces heures là au niveau REP+. Donc les REP+, c'est les réseaux d'éducation prioritaire plus, hein, donc qui sont davantage dotés que les autres. Et dans ces réseaux, il y a des écoles, des collèges et puis même des... Non, il y a pas de lycée. Il y a pas de lycée dans les REP+. Et donc au niveau des écoles, concrètement, une des mesures dans le cadre des REP+, c'est que il y a des temps de formation et des temps de concertation qui sont prévus. Et comme l'organisation du temps de travail dans le premier degré, dans le second degré n'est pas la même, ces temps-là n'ont pas été organisés de la même façon. Donc dans le premier degré, effectivement, il y a des demi-journées REP+ qui sont prévues pour organiser un certain nombre de choses avec des moyens de remplacement. Dans le second degré, il y a ce qu'on appelle donc la pondération des heures de 1.1, c'est-à-dire que le service temps plein d'un enseignant du second degré, c'est de 18 heures par semaine pour un professeur certifié. Il a donc une heure et demie de temps d'enseignement en moins. Et ce temps-là, par contre, est organisé dans l'établissement comme un temps de concertation pour se concerter, quoi, voilà. Et puis il y a également, alors je crois que c'est trois semaines dans l'année où il y a des temps REP+ qui sont prévus pour de la formation en réseau avec le premier degré, mais par contre il n'y a pas de moyen de remplacement pour le second degré.
Donc l'interdegré, à savoir le nouveau cycle 3. Ce qui se passe actuellement, donc nous on essaie de mettre ça en place puisqu'on est préfigurateur, enfin on est 102 à l'être, voilà, donc il a discuté.
Non, mais c'est pas nécessairement 3 jours, ça dépend de voilà, comment c'est organisé, mais on a un chef d'établissement REP+ qui va nous préciser tout ça.
Oui, c'est pas pareil en fonction des académies, effectivement. Juste sur l'intervention de monsieur, ce qui pour moi était délicat, mais c'est l'après-midi même qui veut ça, c'est quand on raconte des expériences, on accroche plus ou moins. Bien sûr, à la première présentation, j'accrochais, puisque Dijon est juste à côté de Chenôve qui est la commune où j'ai l'établissement que je dirige. Et après, ce qui était délicat, c'est d'annoncer des lieux communs qu'on connaît beaucoup, quoi, pour nous dans la salle, avec des propos qu'on entend, comme vous dites, ici et là. Et moi, l'intérêt de ces journées, c'est d'avoir, quels sont les leviers que vous avez utilisés pour changer, justement, ces approches que vous avez pu constater. Sur les REP+, je crois qu'il y a trois temps forts, hein, sur la pondération, que ce soit premier degré ou second degré, hein, il y a trois portes d'entrée, la formation, la concertation, le travail avec les familles. Hein, c'est vraiment les trois portes d'entrée qui sont importantes. Et on constate ici et là, une personne a parlé du séminaire qui avait peu de temps à Paris, hein, et puis on se retrouve la semaine prochaine d'ailleurs à Lyon aussi, en interacadémique. La mise en œuvre de la formation est très délicate, notamment quand on souhaite la mettre en place au niveau de l'interdegré, parce qu'il y a d'autres pratiques entre le premier degré et le second degré. Dans le premier degré, effectivement, il peut y avoir une brigade de remplaçants. Hein, et effectivement, donc, les enseignants se retrouvent sur des temps donnés entre eux et travaillent sur des projets. Dans le second degré, les remplacements sont pas prévus. Donc, quand on souhaite mettre des temps de formation, a priori, c'est hors de leur temps d'enseignement. Hein, et pour avoir eu l'ingénieuse idée qui a été très délicate en début d'année de faire une journée de formation complète, avec l'ensemble des enseignants. Dans un premier temps, je me suis retrouvé confronté au refus de la DAZEN. Donc je suis allé voir le recteur qui a accepté, mais c'est clair que les rapports après étaient un peu tendus avec la DAZEN. Or, il me semblait pertinent en début d'année de créer une journée de formation pour tous les acteurs du terrain. Mais c'est pas facile, parce qu'après, les enseignants qui étaient chargés d'enseignement, je leur ai demandé de récupérer ces heures, parce que les heures leur étaient déjà données dans le cadre de la pondération. Voilà. Donc c'est une petite situation compliquée, je pense qu'on abordera certainement peut-être la semaine prochaine en interacadémique. Sur la concertation, je crois que c'est des temps qui maintenant sont pris, des échos qui ont été donnés à Paris par quasiment l'ensemble des académies et surtout des acteurs. Et après, c'est des temps de concertation en géométrie très variable. Et ce matin, ça a été rappelé par madame, et je crois que c'est vraiment l'essentiel, c'est qu'avant tout, c'est une réforme concernant les pratiques pédagogiques. avec un objectif derrière, effectivement, de réduire le fameux écart qui est terrible, quand on sait les moyens qui sont mis en œuvre et que malgré tout cet écart persiste, voire parfois augmente. Le dernier point qu'on oublie trop fréquemment, c'est le travail avec les familles, enfin l'accompagnement, le suivi des élèves qui forcément doit se faire avec les familles. Sinon, le travail que nous menons dans la journée est déjà défait le soir, éventuellement, ou le travail qui est réalisé par la famille le soir et la nuit, entre guillemets, le lendemain matin, il n'est pas suivi à l'école. C'est dans les deux sens. Et je crois que tous les temps qui nous permettront de nous retrouver avec les familles et certaines associations partenaires, nous on travaille énormément avec le service de prévention, ça permet de créer du lien et ça permet d'avancer, mais il faut avoir l'humilité de ne pas aller trop vite. Sinon, on laisse des personnes au bord de la route. Merci.
Alors, juste quand même par rapport à ce que vous disiez, moi j'ai essayé d'évoquer des choses que je remarque. Je remarque quand même beaucoup de choses qui sont liées à des concertations existantes à un certain niveau. Vous êtes chef d'établissement. Il y a des gens effectivement qui ont des possibilités de concertation. Je constate et je suis beaucoup sur le terrain. Pour vous dire que dans le cadre de la réforme des rythmes, j'entends énormément de choses et de grosses difficultés venant des acteurs de terrain, des animateurs, des enseignants, et sur lesquels il y a quand même, je sais pas, il y a peut-être des choses. Moi, j'ai animé par exemple la concertation à Bron dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes, puisque vous vouliez des choses concrètes. J'ai posé aux animateurs, aux enseignants, il y avait qu'une salle d'enseignants. Je leur ai demandé quel était leur point de vue sur ces nouveaux temps libéré, qu'est-ce qu'ils pensaient en termes de besoins de l'enfant, qu'est-ce qui leur semblait. Il y a eu 30 secondes de silence et puis il y en a un qui a pris la parole et qui m'a dit mais on est vraiment étonné que vous nous demandez ça, nous c'est pas notre temps, ça c'est le temps de la mairie, ça nous regarde pas nous. Et très sincèrement, je constate quand même plutôt ça, c'est-à-dire qu'on a clivé des choses. Bien évidemment c'est pas aux enseignants à dire ce qu'il va faire, mais ce qui doit être fait, mais si on travaille en concertation, il me semble qu'effectivement on peut réfléchir ensemble, puisque les enseignants vont retrouver ces enfants qui ont été pris en charge dans le cadre de ces nouveaux temps libérés. Et voilà, je dis ça parce que ça m'est même un petit peu en colère, parce que quand on vante la réforme des rythmes, on dit mais les espaces de concertation existent, vous rendez compte, c'est formidable, il y a les PEDT, tout le monde a participé. Il y a un PEDT sur Lyon. Ça regroupe combien d'enseignants ont été réellement concernés par ça. Donc effectivement, oui, on a des. Moi, j'ai lu tous les PEDT. On a des très beaux outils. Globalement, ça touche quand même pas de très près la masse des enseignants et la masse des animateurs. Donc, ce qui m'interroge, c'est la concertation effectivement entre les acteurs de terrain, les gens qui sont en face à face avec les enfants et les élèves.
Je voudrais juste rebondir sur ce que dit Bernard, parce que c'est très très important. Le constat qu'il fait, pour tous les échos, j'ai des difficultés qu'il y a dans les écoles, parce qu'il y a des tensions forcément liées à la réforme des rythmes, et le peu d'appui institutionnel pour organiser ce travail en commun. Et pour moi, c'est vraiment une des clés. Quand je vous montrais tout ce matin le petit schéma de Véronique Laforêt, est-ce qu'on pense un travail interinstitutionnel auquel participe Bernard au niveau départemental, mais qui parfois il y a quelque chose qui s'arrête ou qui a du mal à. Mais aussi comment dans chaque institution on pense à faire le lien avec les niveaux dessous pour appuyer leur propre travail partenarial. Et sans ça, on en arrive à des situations. Enfin, moi, honnêtement, se plaindre du fait qu'on est dans des locaux partagés, que ça propose. Enfin, voilà. Pour l'instant, la réforme des rythmes dans les écoles est vécue de manière très 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 rude, quoi. Donc voilà, l'importance de cet appui institutionnel pour aider les gens à travailler en partenariat au niveau de terrain. Et vous aurez une présentation demain de la part des étudiants du CCRA qui ont fait une étude pour nous sur une commune proche d'ici, et qui interroge aussi beaucoup sur tous nos dispositifs partenariaux qui ont une existence au niveau pilotage, mais qui n'ont aucun impact sur le travail en commun des acteurs de terrain qui sont directement au contact des enfants. Voilà.
Je voulais dire une chose aussi, parce que, voilà, même si des gens sont pas d'accord, cette collaboration, elle est difficile. Moi, je veux bien qu'on soit, qu'on dise tout va bien, c'est facile. J'entends vraiment des choses. Je sais pas, l'année dernière, par exemple, on a fait un truc sur la réforme des rythmes avec d'autres mouvements, dont des gens, des mouvements pédagogiques amis. Il y avait une enseignante de Vaux-en-Velin qui est donc une militante pédagogique. Et qui à un moment m'a dit, mais pourquoi vous embauchez des racailles tout le temps sur les animateurs qui interviennent ? Après, elle a eu honte. Elle m'a dit, non, mais je ne devrais pas dire ça. Alors déjà, je lui dis, c'est pas moi qui embauche les animateurs de Vaux-en-Velin. Mais elle était militante pédagogique. C'était quelqu'un d'engagé. Donc la vision qu'elle avait des animateurs, elle vivait des choses qui n'étaient pas faciles. Hein, je ne jette pas la pierre. Mais je veux dire, on part de loin quand même. Et à l'inverse, quand j'étais enseignant, je me souviens, on avait monté une formation à un moment. Et on avait souhaité que des ATSEM viennent. Et elles étaient d'accord pour venir. Et le responsable des ATSEM de la ville, je ne dirais pas de quelle ville, m'a dit, elles vont rien comprendre, pourquoi vous les faites venir. Voilà, donc moi je veux bien que la concertation, elle soit facile, je veux bien qu'effectivement elle existe, mais très sincèrement, ce que disent les animateurs des enseignants, et ce que disent certains enseignants des animateurs, il y a vraiment du chemin. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire concrètement ? Ben, je crois qu'il y a que l'accompagnement, la formation. Il était évoqué tout à l'heure. Il y a un nouveau diplôme, qui s'appelle le CQP, le certificat de qualification professionnelle, sur la spécificité animateur périscolaire. Et je crois beaucoup pour on emmène un petit peu là et pour justement ce qu'on arrive, avec des animateurs qui sont avec des réelles difficultés, parce que voilà, il faut pas le nier. On le sait bien dans un certain nombre de quartiers qu'il y a aussi des gens qui sont venus animer. Animateurs et qui étaient en échec scolaire, mais ces animateurs-là, accompagnés par ce type de diplôme, par exemple, je crois qu'on arrive effectivement à monter et à faire que ces gens-là puissent être en collaboration avec les enseignants.
Moi, je voulais juste rebondir en disant quelque chose qui a été dit dans le, c'est la question du temps. Par rapport à tout ce dont on parle, le temps d'acculturation, le temps de connaissance, le temps d'interconnaissance, etc., il me semble est très important pour aller juste plus loin. Voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter.
Mais vous avez raison, les endroits en plus où, moi j'entendais vraiment des conflits très forts, quand on discute un petit peu, c'est de dire bon, c'est pas si mal. Il y a encore beaucoup de trucs. Les gamins, ils font un peu n'importe quoi. Mais globalement, il y a effectivement, c'est déjà se connaître et se reconnaître.
Oui, mais je voulais juste intervenir à nouveau sur les REP+, et puis sur les temps de concertation et de formation, et surtout sur le fait que on n'en a pas parlé, mais on parlait tout à l'heure du temps. Du temps de concertation, de formation, mais aussi du pilotage. Je pense aussi qu'il y a un point important dans la refondation de l'éducation prioritaire, c'est le pilotage à trois. Donc ce sont les IUN, les chefs d'établissement et les IAIPR qui peuvent peut-être impulser justement un travail de partenariat dans ces temps de concertation et de formation. Je pense que c'est important. Et puis aussi sur l'interdegré. Donc l'interdegré, je pense que c'est primordial. Et justement, c'est avec ces trois pilotes qu'on pourra y parvenir.
Je vais juste reprendre un petit peu ce que ma voisine disait et en même temps reprendre ce que vous disiez. C'est-à-dire que la formation, la concertation et la participation des habitants, on est la participation des parents. Ces trois objectifs qui sont déjà inscrits dans le cadre de la politique de la ville. Ce que vous êtes en train de soulever comme difficulté, les PRE les ont rencontrés et je pense qu'il faut du temps. Voilà, les référents éducatifs, qu'est-ce que c'était, qui c'est, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, etc. Ils sont pas diplômés, c'est pas des professionnels. Et finalement, au bout de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans d'intervention sur le territoire, on se rend compte qu'effectivement c'est des tiers importants, des acteurs éducatifs importants. Donc voilà, il faut tout ce temps-là, tout ce temps de concertation-là, ça va prendre du temps, c'est tout jeune, c'est les temps périscolaires, voilà, mais il faut le prendre ce temps-là. Et l'importance du pilotage, je pense qu'effectivement, si on est soutenu par l'institution, ça fera avancer beaucoup mieux les choses, ça c'est sûr, mais bon, comme ça, on peut pas décider à la place de l'institution. Et rappeler également que, les préoccupations, ce que disait monsieur tout à l'heure, préoccupations, si on est toujours dans la plainte, sans solution derrière, on n'avancera pas. Voilà. Enfin, voilà. D'où la construction des projets en partenariat, de rêver, faut rêver, faut être utopique parfois, mais faut, voilà, en essayant d'avancer comme ça.
Mais je crois qu'il y a beaucoup de, enfin, les gens dans le cadre de la réforme des rythmes se sont mis en projet. Et les difficultés, je sais pas, sur une ville comme Lyon par exemple, le début d'année qui était quand même catastrophique, on va dire, enfin, qui était vraiment axé sur la sécurité, pas perdre les gamins, ça a évolué très positivement. Donc, enfin, positivement, en tout cas, il y a encore des choses, mais ça a évolué positivement. Ce qui est peut-être la différence par rapport au PRE, c'est qu'on est sur des masses beaucoup plus importantes d'accueil des élèves.
C'est pas une question, c'est juste pour compléter. Les PEDT, effectivement, notamment le nôtre, il a été signé. On a mis beaucoup de directeurs d'école, pratiquement tous, et des directeurs de collectifs, d'accueil collectif de mineurs. Ça représente 80 directeurs d'école, mais c'est 80 directeurs d'école, c'est pas du tout les enseignants. Ils n'ont pas pu être libérés, c'est normal, c'est sur un temps d'école. Donc c'est vrai que ce qui manque sur cette réforme, c'est qu'il y a une vraie opportunité, c'est cette réflexion partenariale sur de l'objectif. Par contre, ce qui manque, c'est du temps dégagé aussi sur la réforme des rythmes, parce que il est un fait que aucun enseignant du premier degré n'a de temps libéré pour discuter avec les animateurs sur le territoire. Donc, des enquêtes se font, notamment en Côte d'Or. Une enquête pilotée par les services de la DAZN est en route, justement pour évaluer l'impact des rythmes et puis de l'organisation. On espère que derrière, ça va apporter des nouveautés pour la saison prochaine. Aujourd'hui, le PEDT est au niveau de l'école. On a ce qu'on appelle un protocole école périscolaire dans toutes les écoles, où les directeurs d'école, les animateurs et les enseignants se rencontrent pour réfléchir sur ce qui est possible et pas possible de faire à l'école. Donc déjà, il y a des procédures qui sont mises en place. Et si on veut réfléchir objectif, c'est sur le temps de midi 2 où les enseignants sont souvent disponibles, mais sur leur temps personnel encore, malheureusement.
Oui, c'est justement là-dessus que je voudrais rebondir, sur la question du temps. On dit ça prend du temps. On a l'air de le découvrir aujourd'hui. Je rappelle que quand même, on part pas de rien. On part d'au moins 1998, soit 17 ans. 98, c'était les CTL, contrats temps libre, contrats éducatifs locaux, qu'on a cette expérience-là. Et qu'on a quand même depuis 17 ans l'expérience qu'on ne construit pas de la dynamique partenariale sur le volontarisme et la personnalisation et l'investissement personnel des individus. Ça, on le sait en termes de politique publique. Et ce qui est compliqué, effectivement, à travers cette réforme, c'est que même s'il y a des avancées, et je trouve de ce point de vue-là, ce qui est fait dans l'éducation prioritaire est tout à fait remarquable, c'est une avancée déterminante de mon point de vue, c'est libérer du temps pour les enseignants. Ça s'était jamais fait avant, c'est remarquable. Mais si on élargit ça par rapport à la réforme des rythmes, on a une vraie difficulté. Celle qui a été dite, celle qui est, on ne fait pas des politiques sur du volontarisme. On organise une rencontre sur le temps libre des enseignants, après on s'étonne qu'ils ne viennent pas. Et c'est là-dessus qu'on veut construire des relations partenariales. Je pense qu'il y a une contradiction dans les termes.